Le journal Lydiane Guiona.
Bonsoir. Certains pollens peuvent être indirectement responsables d'allergies alimentaires. Ces allergies croisées sont assez courantes. Heureusement, il est possible de les traiter, vous l'entendrez. Les crypto-monnaies sont en chute libre depuis la semaine passée. Certains experts de cette devise numérique avancent que cette tendance était prévisible en raison de la situation de crise mondiale. En sport, l'équipe de Suisse de hockey sur glace peut compter sur ses supporters au Mondial en Finlande. Ils sont plusieurs centaines à avoir fait le déplacement à Helsinki, dont un groupe de romans que notre envoyé spécial a rencontré. Météo, la soirée sera plutôt belle malgré la présence de quelques nuages. Demain, le temps sera dans l'ensemble bien ensoleillé. Des cumulus se développeront sur les reliefs dans l'après-midi, mais on restera au sec. Pendant la saison des pollens, vous avez la gorge qui gratte chaque fois que vous mangez une pomme crue. Vous êtes peut-être victime d'une allergie croisée. Des intolérances aux pollens couplées avec des allergies alimentaires, plus de deux tiers des personnes atteintes par le rhume des foins sont concernées et parfois même sans le savoir. Chez certains patients, les symptômes sont présents toute l'année. Chez d'autres, ils n'apparaissent qu'en cours de saison pollinique. La prise d'anti-inflammatoires, l'effort physique ou l'ingestion d'alcool peuvent favoriser l'apparition de symptômes plus sérieux. Il existe malgré tout des traitements, l'allergie. L'allergologue Guillaume Bus, médecin consultant au réseau hospitalier Neuchâtelois.
Quand les symptômes apparaissent, les antihistaminiques qui sont efficaces pour le rhume des foins, la rhinoconjonctivite allergique, sont tout à fait efficaces sur ce type de symptômes. Maintenant, comme autre traitement à disposition, on sait que la désensibilisation dirigée contre les pollens n'a pas une efficacité avérée. Par contre, on peut proposer ce qu'on appelle des inductions de tolérance et on utilise typiquement la pomme. On a des petites études qui ont montré que si on exposait des personnes à des toutes petites quantités de pommes, par exemple, on commence par 1 gramme, ensuite 2 grammes, 4 grammes, 8 grammes, et puis on va sur un premier jour jusqu'à un quart de pomme, il y a environ 60 à 70% des personnes qui vont pouvoir tout à fait tolérer la consommation de pommes avec ce procédé-là.
Retrouvez davantage d'informations au sujet des allergies croisées sur rjb.ch. Une altercation fait un blessé à Bienne. Deux hommes se sont bagarrés à la rue Hermann Lindhardt hier en fin de soirée. À l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, seul un homme blessé était encore présent, selon le communiqué de la police cantonale bernoise. Il a été emmené à l'hôpital pour un contrôle. Le deuxième homme, suspecté d'avoir participé à la bagarre, a pu être interpellé et emmené dans un poste de police pour des clarifications. Un appel à témoins est lancé. Plus d'informations sur notre site internet. Une coopérative pour le maintien d'une épicerie bio-vrac à Saint-Imier. Elle est en cours de création. L'idée est née à la suite de la fermeture fin avril du magasin Saint-Ivrac. Afin de pouvoir continuer de proposer une telle offre aux habitants, une dizaine de personnes souhaitent donc unir leurs forces. Pour trouver suffisamment de membres, une séance de présentation a lieu ce soir au Centre de culture et de loisirs. Co-fondateur de la coopérative Val-en-Vrac, David Vieille nous explique l'objectif de ce projet.
Alors l'objectif, c'est de maintenir une épicerie bio, vrac, locale à Saint-Imier, mais en même temps que ça soit pas juste un magasin où on fait ses courses, mais aussi où on s'implique, que ça soit par du bénévolat. Enfin, quand on devient un membre coopérateur, l'idée, c'est de donner 3 heures de bénévolat par mois, voilà, dans la limite du possible, et de participer activement du coup à la vie de la coopérative et du magasin.
Donc ça veut dire qu'on ne doit pas forcément soi-même fournir des produits, mais simplement être là, s'engager.
Voilà, un coopérateur, c'est un client qui veut soutenir ce projet-là, qui veut soutenir cette épicerie et qui voudrait voilà, s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la création de ce magasin pour le faire vivre aussi dans la durée.
Alors concrètement, quand est-ce que vous espérez pouvoir ouvrir le nouveau magasin ?
L'ancien magasin est fermé du coup depuis fin avril, donc il n'existera plus dans ces locaux-là de toute façon. On doit rechercher un nouveau local, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, mais on espère pouvoir ouvrir à la mi-août. En tout cas, ça sera la période de la rentrée, on espère ouvrir le magasin à ce moment-là.
Des propos recueillis par Alexandre Michler. Vous retrouvez l'interview complète de David Vieille sur rjb.ch. Et la soirée de présentation de la coopérative Val-en-Vrac a lieu ce soir à 18h30 au CCL de Saint-Imier. Faut-il s'inquiéter de la chute des crypto-monnaies? Depuis quelques jours, les devises numériques s'écroulent. Les principales monnaies ont perdu 30% de leur valeur. La plus connue, le Bitcoin, est tombée en dessous des 30 000 dollars hier, alors qu'elle s'échangeait encore à plus de 65 000 dollars en novembre passé. Alors que la fin de la pandémie laissait présager une reprise, le marché est en train de plonger après une année 2021 de tous les records. Mais selon certains experts, il n'y a pas lieu de paniquer. L'éditeur et entrepreneur neuchâtelois Lionel Jeannerat.
Clairement, ce n'est pas déconnecté au reste du monde. Donc la hausse des taux, la guerre, l'inflation, enfin, il y a des raisons qui font que les marchés actuellement bougent. Il y a le marché des actions aussi technologiques qui se sont effondrées. Hein. Mais une baisse de 30% sur Bitcoin, c'est quelque chose de fréquent. C'est quelque chose d'extrêmement volatile. Ça, c'est un fait. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas lieu de paniquer. D'une part, parce qu'en fait, si on dézoome, la tendance de la valorisation de Bitcoin, elle est à la hausse, comme j'ai dit. Et surtout, en fait, les indicateurs précis, en fait, sur l'adoption de Bitcoin, tout est ouvert. De plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de pays qui l'acceptent comme moyen de paiement légal. Le nombre de transactions sur le réseau, le nombre d'implémentations, la construction qui se fait dessus, le nombre d'entreprises qui travaillent dessus. En réalité, pour nous, pour l'écosystème à Neuchâtel, tout est plutôt positif, en fait. À chaque bulle, en fait, qui augmente l'adoption de Bitcoin, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui viennent, il y a un crash, mais il en reste. Puis chaque fois, en fait, on est plus nombreux.
Autre raison de cette chute soudaine, la semaine passée, une crypto-monnaie populaire, le Luna, a littéralement vu sa valeur s'effondrer de 60 dollars à 18 centimes en 24 heures. Aujourd'hui, elle ne vaut presque rien, plus rien ou presque. Il s'agit du plus grand crash de l'histoire des crypto-monnaies. Une avancée dans le dossier des bébés sri-lankais enlevés dans leur pays pour être adoptés en Suisse. Confédération et canton ont signé aujourd'hui un projet pilote avec l'association Back to the Roots. Celle-ci aide les centaines de personnes adoptées au Sri Lanka dans leur démarche pour retrouver leurs origines. Cette convention permet de financer l'association avec 250 000 francs par an de janvier 2022 à décembre 2023. Mais pourquoi parler de projet pilote? La conseillère fédérale Karine Keller-Souter.
Parce qu'en fait, il faut être honnête, la Confédération n'a pas de base légale pour ces moyens qu'on met à disposition. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend les fonds qui sont dans le partenariat de migration avec le Sri Lanka. C'est possible parce que là aussi, il y a un paragraphe qui veut qu'on sert l'état de droit.
Mais il pourrait ensuite servir de modèle pour d'autres domaines?
Oui, absolument, ça pourrait continuer. Puis il y a d'autres pays aussi qui sont maintenant sous examen, dont on ne sait pas encore s'il y a eu aussi les mêmes pratiques ou pas.
Et les dossiers d'enfants enlevés à leur mère ne semblent pas concerner que le Sri Lanka, selon un rapport. Présidente de l'association Back to the Roots, Sarah Inaishan confirme la découverte de nouveaux cas.
On voit clairement pendant notre travail la demande énorme aussi des adoptés des autres pays d'origine, surtout d'Inde. On a depuis 2022 chaque semaine une nouvelle personne qui s'adresse à Back to the Roots, aussi de pays latino-américains et de Thaïlande. Ça montre aussi dans leur dossier, on a des mêmes indices que c'est la même chose comme dans les cas du Sri Lanka.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Neja de Toulamy. On l'a appris il y a quelques minutes, la France a désormais une première ministre. Emmanuel Macron a nommé ce soir Elisabeth Borne à ce poste. Actuelle ministre du Travail, elle succède à Jean Castex à Matignon. Après la Finlande hier, la Suède va aussi demander son adhésion à l'OTAN. La première ministre l'a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Magdalena Andersson a évoqué une nouvelle ère pour le pays scandinave après quasi deux siècles hors des alliances militaires. Et après bientôt trois mois de guerre, les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Elles ont ainsi repris le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie.
Vous écoutez RJB, il est 18h10.
Sport.
L'heure de la retraite a sonné pour Nicolas Flouri. Le Prévotois a arbitré une vingtaine d'années dans l'élite du hockey sur glace helvétique. Aujourd'hui, il a décidé de poser le sifflet pour des raisons professionnelles. Nicolas Flouri a officié en tant que juge de ligne pour la première fois en Liga en 2005, avant de devenir arbitre principal en 2018. À son compteur, l'arbitre de la région a des dizaines de matchs dans l'élite du hockey sur glace helvétique, ainsi que de nombreux rendez-vous internationaux. Mais la charge que représente l'arbitrage au haut niveau était devenue trop lourde pour Nicolas Flouri.
Je compte toujours un match que j'appelle simple, c'est-à-dire un match où je ne me déplace pas à l'autre bout de la Suisse. Donc, disons, à maximum 2 heures de déplacement, un match, ça représente environ 8 heures de travail. Depuis le moment où je quitte mon domicile ou le travail, jusqu'au moment où je rentre à la maison, sans compter que le lendemain, il y a encore des analyses à faire, à transmettre, etc. Donc, vous multipliez ça par 2 à 3 par semaine.
Ça fait beaucoup, effectivement.
Ça fait beaucoup, oui.
Nicolas Flouri, une carrière comme la vôtre, ça ne s'oublie pas, évidemment. C'est quoi votre plus grand souvenir?
C'est cette aventure humaine de toutes ces années, mais le plus grand souvenir, voilà, celui qui me marque le plus, comme ça, qui me vient à l'esprit, c'est vraiment cette finale à Montréal entre les États-Unis et le Canada, au championnat du monde des moins de 20 ans. Dans un centre Bell, plein craqué, plus de 20 000 spectateurs. C'était un grand moment, oui.
Nicolas Flouri répondait à Stéphanie Chalère. Interview complète à retrouver sur notre site internet. Damien Ria et Marco Miranda pourront prétendre à une place sur la glace demain soir avec l'équipe de Suisse de hockey sur glace. Les deux joueurs ont été officiellement inscrits dans l'effectif pour le championnat du monde en Finlande. Suite logique après le renoncement de Kevin Fiala et la qualification de Nino Niederreiter pour la suite des playoffs de NHL. Les deux places avaient été laissées en suspens dans l'attente de nouvelles des deux joueurs qui évoluent en Amérique du Nord. Et si la présence des deux joueurs sur la glace demain n'est pas encore certaine, une chose est sûre, l'équipe de Suisse sera soutenue en Finlande. Depuis son entrée en lice dans le championnat du monde, la sélection de Patrick Fischer peut compter sur l'appui de plusieurs centaines de supporters enthousiastes. Nombreux sont ceux qui portent fièrement les couleurs rouge et blanche et qui se costument de manière originale. Notre envoyé spécial Raphaël Chalvera a rencontré un groupe d'amis romands qui n'auraient manqué ce mondial sous aucun prétexte. Brin de Cosette à Helsinki, en commençant par Raphaël.
C'est sympa, il y a beaucoup de monde. Et puis déjà que nous, on est une bonne équipe, alors ça aide pas mal. C'est un peu un rituel, donc c'est vraiment sympa, oui.
Tachereau, qu'est-ce que vous attendez de cette équipe de Suisse que l'on dit très forte ici à Helsinki?
Vu le contingent qui est mis à disposition, on peut quand même légitimement viser une médaille. Surtout que d'après moi, les grosses écuries habituelles n'ont pas forcément un contingent extraordinaire, quoi.
Daniel, à votre avis, qu'est-ce qui fait les qualités de cette équipe de Suisse cette année?
Je pense qu'en attaque, ils sont bons, mais en défense, c'est pas mal aussi, mais il manque un peu Josie.
Jimmy, un mot de Patrick Fischer, est-ce que c'est un bon sélectionneur?
Il fait pas que des mauvaises choses, mais il aurait pu faire beaucoup mieux certaines années.
C'est-à-dire?
JO, par exemple. Il y a aussi le powerplay à améliorer.
Grégory, il n'y a finalement qu'un roman pur souche dans cette équipe, c'est Damien Ria. Comment vous vivez cette situation? Est-ce que ça manque pas un peu de Belge dans ce groupe?
Il en manque un petit peu, je suis d'accord avec vous. Mais au niveau roman, voilà, il y a un peu Lausanne, un peu Fribourg, un petit peu Genève, il y a beaucoup du Salma. Un peu déçu par rapport à la qualité qu'on a au niveau hockey roman.
Jérémy, on a parlé d'un objectif médaille, est-ce que c'est vraiment réaliste? Parce qu'en face, il y a quand même du costaud, alors ça risque d'être quand même un sacré défi, non?
Oui, il y a du costaud en face, mais moi je pense que depuis le temps qu'on le parle, cette médaille, ben, cette fois, il faut aller la chercher, mais moi je parle de médaille d'or. Il faut vraiment aller chercher cette première place et on est capable. Et puis on va tout donner. Non, cette année, on fait la finale et puis on gagne cette finale. Cette année, c'est la nôtre.
À part le hockey, Baptiste, est-ce que vous avez déjà goûté à la gastronomie finlandaise?
Oui, alors on a trouvé un petit buffet à 25 euros, nickel, on a bu. On a bu, oui, mais on a pu goûter du vrai saumon finlandais, enfin, toutes des spécialités, c'était vraiment parfait.
Luc, cet esprit festif, cette ambiance ici, comment est-ce que vous la décrivez?
C'est toujours magnifique, surtout qu'après 2 ans sans championnat du monde, ouais, qu'on a pu se déplacer. Pouvoir revenir, retrouver les gens d'autres nations, tout, c'est magnifique, quoi.
Est-ce que les Finlandais sont accueillants?
Ah, pour l'instant, ils sont très accueillants, oui. Quand on les aura battus en finale, ben, ma foi, ils seront peut-être moins accueillants, mais... Non, sinon, ils sont très accueillants, il n'y a pas de souci, quoi.
Qui va remporter la médaille d'or?
La Suisse!
Les supporters de l'équipe de Suisse répondaient à notre envoyé spécial en Finlande, Raphaël Chalvera. Et à 38 ans, Raphaël Nuzzolo n'est toujours pas fatigué. L'attaquant biennois a prolongé son contrat avec Neuchâtel Xamax pour la saison prochaine en Challenge League de football. Depuis 2001, il a marqué 128 buts pour le club rouge et noir en 456 rencontres. Gaël Monfils déclare forfait pour Roland-Garros. Le numéro 1 français de tennis est gêné au pied droit par une excroissance osseuse. Il devra même subir une petite intervention avant de reprendre la compétition. L'information revient à 18h30, je vous souhaite une très belle soirée.